J'ai écouté la prédication de Philippe la semaine dernière avec plaisir. Et du coup, je veux continuer un peu sur la lancée de ce qu'il a apporté. Lui-même continuait sur une prédication que j'avais faite il y a longtemps. Donc, c'est intéressant comme ça qu'on se file. Donc, on va rester sur Philippiens. Et on sera toujours dans le chapitre 1. Et je vais relire les deux petits versets sur lesquels Philippe a prêché dans Philippiens, pardon. Donc les versets 12 à 14. Et puis je vais enchaîner avec la suite du passage. Je lis à partir de Philippiens 1, verset 12. Frères et sœurs, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en fait à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, savent que je suis prisonnier pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères et des sœurs, davantage confiants dans le Seigneur, osent encore plus proclamer, sans crainte, la parole de Dieu. Or, quelques-uns annoncent le Christ par jalousie et avec un esprit querelleur. Mais d'autres l'annoncent avec bienveillance. Ceux-ci agissent par amour, car ils savent que je suis là pour défendre la bonne nouvelle, et les autres proclament le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs motifs ne sont pas purs. Ils pensent accroître ma détresse de prisonnier. Ouais, peu m'importe. Que leurs intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon proclamé, et je m'en réjouis. Car je sais que tout cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ sera manifestée en moi, que je vive ou que je meure. Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. Mais si vivre ici-bas me permet encore d'accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je suis tiraillé entre deux désirs. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. Mais il est bien plus nécessaire, à cause de vous, que je continue à vivre. Comme je suis certain de cela, je sais que je resterai, que je demeurerai avec vous tous pour vous aider à progresser et à être joyeux dans la foi. Ainsi, par ma présence, vous aurez, grâce à moi, encore plus de raisons d'être fiers dans votre union avec Jésus-Christ. Et je vais m'arrêter là. Donc le sens de ce passage, une partie en tout cas, Philippe l'avait bien dévoilé la semaine dernière, consistait à montrer que les circonstances de Paul semblent dramatiques. Il est en prison, bourlingué de cellule en cellule. Il se rapproche de Rome parce qu'il a demandé à comparaître devant l'empereur lui-même. Et du coup, il continue son périple à Rome où il semble être actuellement. Et il va devoir témoigner devant l'empereur. C'est son but aussi. Mais sa vie est en jeu. Lui ne voit pas les choses sous un mauvais angle, mais plutôt comme des occasions nouvelles qui se prêtent à lui. Il encourage l'église de Philippe à voir les choses sous cet angle positif. Mais ce dont je veux vous parler ce matin, c'est une autre facette de la situation. Au verset 14, Paul dit « En me voyant en prison, la plupart des frères et des sœurs, davantage confiants dans le Seigneur, osent encore plus proclamer sans crainte la parole de Dieu. » C'est comme si l'incarcération de Paul avait suscité un élan de vocation. Voilà. Paul est en prison, pouf, il y a un élan de vocation, il y en a plein qui se mettent à prêcher. Mais il y a plusieurs motivations derrière ça. Il y a des personnes qui se mettent à prêcher parce que ils voient Paul en prison, et Paul peut-être est une figure, un modèle pour eux, ou peut-être ils ont énormément d'affection pour lui, ou qu'ils ont été touchés par son ministère, Et il y a quelque chose en eux qui les pousse à reprendre le flambeau, à continuer son œuvre. Son incarcération les bouleverse et ça suscite un courage en eux. La manière peut-être dont Paul traverse l'emprisonnement les illumine quelque part et les encourage. Je sais que l'année dernière, on a eu plusieurs témoignages de personnes qui ont traversé des maladies, des cancers, il y a 2 ans avec Guillaume. Et on voyait bien que parfois, quand un frère ou une sœur traverse une épreuve douloureuse, mais qu'il est serein et paisible dans le Seigneur, vous avez déjà vu ça, ça nous inspire. Ça nous inspire. Quelque part, quand on voit quelqu'un qui traverse la tempête en étant attaché au Seigneur, on se rapproche de lui, on se rapproche de cette personne. Parce que on se dit, comment, enfin, c'est une grande question fondamentale dans notre cœur, comment traverser la souffrance sans être renversé de sa barque. Et peut-être Paul inspire dans sa prison, et donc parmi les personnes qui sont suscitées, qui sont hop, qui se lèvent pour reprendre le flambeau, il y a tout un tas de personnes qui sont inspirées par son ministère, qui sont dans l'amour, la bienveillance de Paul, et il le dit. Certains l'annoncent avec bienveillance, certains agissent avec amour. Et puis, il y a tout un autre groupe de personnes. Vous savez, on dit dans la forêt, quand un arbre tombe, ça fait une trouée dans la canopée, et hop, il y a de la lumière qui tombe, et les jeunes pousses qui font la course, justement, vers le sommet pour capter le plus vite, le plus de lumière possible. Et on a l'impression que là aussi, il y a toute une série d'opportunistes qui voient dans la déchéance, dans la chute de Paul, c'est pas une vraie chute en fait, mais certains le voient comme une chute, une occasion peut-être de faire un pas dans la lumière, d'être à leur tour sous les feux de la rampe, hein, sous les feux des projecteurs. C'est ce que Paul appelle par un esprit de rivalité, de compétition, d'accord ? Paul était une figure majeure de l'Église primitive, d'accord ? Même aujourd'hui, les historiens disent que c'est le fondateur du christianisme et que c'est pas Jésus. Bon, je pense qu'ils se plantent un peu complètement sur cette question, même si on peut pas nier que Paul a écrit la majorité du Nouveau Testament, en fait. Donc une figure importante, et Paul étant en prison, Paul ne pouvant plus visiter les églises, Paul n'étant plus à droite, à gauche, en train de faire ses voyages missionnaires ou de convoquer les personnes à lui, forcément son influence dans l'église va diminuer, et certaines personnes peut-être en profitent pour se dire « Tiens, c'est l'occasion pour moi de sortir du lot. » Et puis encore d'autres, qui eux sont carrément jaloux de Paul, et qui vont peut-être, d'une manière ou d'une autre que je ne connais pas, chercher, il dit, à accroître ma détresse de prisonnier. Comme si peut-être il faisait parvenir des informations sur ce qu'il ne peut plus faire, ou sur le fait que maintenant, il va aller visiter une église dont Paul s'était occupé, que c'est peut-être, je sais pas, on n'a pas vraiment de détails sur comment ils font, mais apparemment, ils le narguent, ils veulent le faire souffrir d'être en prison. Une triste réalité de l'Église. On est peut-être en 50 après Jésus-Christ, donc c'est très tôt. Et la compétition, les querelles de clochers, l'Église comme un lieu de pouvoir et d'ambition, ben c'est déjà là. En 50 ans. 50 ans, c'est-à-dire même quand je dis en 50 ans, non, c'est pas vrai, parce que Jésus est mort en 33, donc en fait, il s'est passé quoi? 17 ans. C'est rien. Et déjà, l'Église est saisie par des enjeux de pouvoir. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, vous savez que la question du pouvoir dans l'Église a toujours été très, très problématique. Très, très problématique. Mais Paul réagit d'une manière un peu déroutante par rapport à ça. Peu m'importe. Hein ? que leurs intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon proclamé et je m'en réjouis. » Alors, ça nous donne quelque chose de particulier ici quand même. Parce que si vous vous souvenez peut-être dans la lettre de Paul aux Galates, à un moment, Paul dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, si un ange descend du ciel et vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit banni, proscrit, d'accord? Presque damné, en fait. Si un ange vous annonce un autre, si moi-même je venais vous annoncer un autre évangile, qu'il soit damné. D'accord? Donc, quand quelqu'un annonce un autre évangile, alors là, Paul, il est impitoyable. Mais quand quelqu'un annonce, entre guillemets, le vrai évangile, mais avec au cœur peut-être des intentions qui sont pas pures, et que le message délivré est le vrai, tant mieux. Ou faisons feu de tout bois. C'est étonnant, non? C'est étonnant. Je m'en réjouis, Christ est prêché, le royaume continue. Le royaume continue. Et là, on commence à rentrer un peu dans une pensée qui nous est peut-être étrange à nous, la pensée de Paul, où en fait, dans sa vie, ce qu'il y a au-dessus de tout, c'est le royaume et Christ. Au-dessus de tout. Au-dessus de lui aussi. Au-dessus des injustices qu'il vit, des souffrances qui lui sont infligées, peut-être des torts qui lui sont faits, il y a d'abord Christ et le royaume. Mais d'une manière tellement intense que ça nous paraît presque fou un peu fanatique. Ça ne veut pas dire que ces prédicateurs aux intentions inavouables sont des modèles. Ça veut dire qu'au moins, quand ils parlent de Jésus, ils disent pas de bêtises. Ils disent pas de bêtises. Mais malheureusement, ils prêchent aussi par ambition. Ils prêchent aussi pour, comme on dit, leur ventre. La soupe est bonne. Ils prêchent comme il faut et ce qu'il faut, mais dans un autre but peut-être. Enfin, disons, certainement, ils ont à cœur d'édifier l'Assemblée. Certainement, ils ont à cœur de leur apporter quelque chose de Christ. Mais certainement qu'il y a aussi un enjeu personnel. Peut-être premier. Qui, malheureusement, tôt ou tard, je crois, apportera des dommages à l'Église. Tôt ou tard, ils apporteront des dommages à l'Église. Tôt ou tard, l'Église va en souffrir de ces enjeux personnels, de cette ambition personnelle, qui n'est pas au-dessus de l'importance du royaume et de Christ. Paul, lui, arrive à mettre ça derrière lui. Je sais que tout ça contribuera à mon salut grâce à vos prières, dit-il, et à l'Esprit de Jésus. Voilà, il est sur sa route. Il est sûr de son chemin. C'est ça. Il est sûr de son chemin. Il n'a pas à faire la preuve de ce qu'il fait ou de ce qu'il croit. Il l'assume pleinement. Il sait que ceux qui sont pleinement attachés à Jésus le reconnaîtront, lui, comme étant sur le droit chemin. Et puis les autres, eh ben, que Dieu leur vienne en aide. Presque, j'ai l'impression, dans ces mots-là, qu'il est plus triste pour ces prédicateurs aux mauvaises intentions qu'en colère contre eux. Et il nous amène à voir cette espérance profonde qu'il y a en lui. Je serai avec le Seigneur. Je serai avec le Seigneur. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens, Paul raconte qu'il a eu une vision à un moment de sa vie. Il a été emmené presque dans les cieux, il a vu le royaume, il a vu le paradis. Et ça l'a transformé. Il a cette totale assurance, et même il a peut-être goûté déjà des choses qu'aucun d'entre nous n'avons goûté, de cette présence de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'être, que de vivre avec lui quelque part? Il a entendu, dit-il, des paroles incroyables. Et c'est pour ça qu'il a cette phrase très puissante, je trouve, du verset 21. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. Il y avait un vieux cantique comme ça qui disait « Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». Incroyable. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Je préfère mourir pour rejoindre le Seigneur plutôt que de rester sur terre. Je préfère mourir pour rejoindre le Seigneur plutôt que de rester sur terre. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous, si je pose la question, est-ce que vous avez peur de mourir? On me dira non. Pour les mêmes raisons que Paul. Parce que je sais que si je meurs, je vais rejoindre le Seigneur. Mais, quand même, pour mourir, il faut souvent souffrir. Ça, c'est plus embêtant. Et parfois, des personnes à qui se posent la question ont cette honnêteté de différencier, de dire, bon, mourir, le passage me fait pas peur, mais la manière dont j'y viens, là, je préfère pas, quoi. Mais Paul, lui, il en est à un tel degré d'envie de rejoindre le Seigneur que même les souffrances, en fait, ne pèsent pas dans la balance. Voire même, il regarde ses souffrir pour le Christ, c'est une gloire. Très franchement, dans ma vie spirituelle, j'en suis pas là. J'en suis pas là. Et presque, je ne saurais pas trop comment en arriver à là. Mais ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que même quelque part, dans cette question-là, on voit que Paul dit, bon, mais moi, je préférerais mourir pour être avec le Christ que de vivre. Mais quel est le vrai bien? Quel est le vrai intérêt? Quel est le vrai service à vivre? C'est de rester auprès de vous pour continuer de collaborer avec vous et de vous édifier. C'est-à-dire que même là, dans les chaînes, on pourrait dire qu'il a tout donné déjà. Il est en prison. Il veut continuer de servir. C'est-à-dire que même dans les chaînes, ce qu'il peut apporter à l'Église passe avant ce qu'il désire lui-même. Donc on est vraiment dans l'opposé de ces faux prédicateurs. C'est pas juste de dire des faux prédicateurs, parce qu'ils prêchent vraiment. De ces prédicateurs avec des intentions impures, Paul, lui, semble avoir les plus hauts intérêts à cœur, c'est-à-dire celui de l'Église et du royaume. Notre Église, nos Églises, sont souvent malmenées par ces querelles de clochers, sont souvent divisées ou mises à mal par ces conflits d'intérêts de personnes, parce que on a de l'ambition dans l'Église. Et il y a peut-être un paradoxe, parce que nous, anciens responsables, prédicateurs, allons passer des années à vous encourager, à vous investir, à prendre votre place, à vous mettre au service du Seigneur, à venir mettre la main à la pâte dans l'œuvre. Et la foi, il faudrait le faire sans ambition. C'est peut-être paradoxal comme discours. Paul avait beaucoup d'ambition pour l'Église. Paul avait beaucoup d'ambition, mais il avait peu d'ambition pour lui-même. Beaucoup d'ambition pour l'Église, une grande envie de voir l'Église devenir. De voir les frères et sœurs devenir, de voir les communautés devenir. Mais ce qu'il deviendrait, lui, tant pis. Tant pis. Et cette motivation qu'il avait en lui, en fait, même si elle nous impressionne beaucoup, là, quand on entend Paul dire « Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain », on se dit « Waouh, Paul, quel niveau !» Tout ça n'est qu'une pâle imitation, une pâle imitation de Jésus. C'est une pâle imitation de Jésus. Jésus ne peut pas dire « Jésus-Christ est ma vie, la mort est un gain ». Mais Jésus va dire « Pour l'Église, la mort m'est un gain ». Pour voir surgir de mon côté, comme Adam et Ève, pour voir surgir l'Église, vous, la mort m'est un gain. Et il y est allé volontairement, non pas en prison comme Paul, mais se livrer à la croix. Et à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure qui s'est passée pendant la passion du Christ, il pouvait se libérer d'un pas, d'un claquement de doigts, d'une parole, d'une pensée. Il pouvait mettre un terme à ses souffrances, à ses humiliations, à ses injures, dès qu'il le voulait. Mais il ne l'a pas fait parce que la mort sur la croix lui était préférable, parce que par elle, il allait tous nous rassembler dans son amour. Il allait fonder sur cette terre, établir sur cette terre un petit bout, petite parcelle de royaume. Et toutes celles et ceux qui rentreraient dans cette parcelle de royaume retrouveraient leur relation avec Dieu le Père. Et cette petite parcelle de royaume qu'il a fondée à Jérusalem a essaimé comme les fleurs qui jettent leur petit pollen. Et d'autres églises, d'autres communautés, d'autres petites parcelles de royaume se sont établies un peu tout autour, dans tout le bassin méditerranéen. Et cette église à Vauvert, qui a plus de 150 ans maintenant, qui elle-même est une fraction d'une autre église encore plus ancienne, on peut remonter jusqu'à la Réforme, peut-être, je ne sais pas. C'est un petit bout de royaume. Et toutes celles qui rentrent dans ce petit bout de royaume, en fait, peuvent avoir un accès renouvelé au Père et appartenir à l'Église. Et c'est en voyant ça, c'est en rêvant dans le sens fantasme, mais en ayant cette vision, cette assurance dans les yeux et dans le cœur, que Jésus est allé volontairement à la croix, jusqu'au bout. Nous aussi, on peut être plongé dans des querelles de clochers. Nous aussi, on peut avoir des enjeux, des conflits de pouvoir, d'intérêt dans l'Église. Mais dans ces moments-là, il nous faut regarder à Christ. Il nous faut regarder à Christ qui est le vrai fondateur de cette Église. Il nous faut regarder à lui pour comprendre qui nous voulons faire triompher dans cette histoire. Qui nous voulons voir régner sur cette Église. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes idées? Est-ce que c'est mon opinion, mon clocher? Ou est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui est mort pour nous? Paul exhortait les Philippiens au tout début de cette lettre, c'était ma première prédication. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus. Votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une parfaite compréhension, pour que vous soyez bien capable de discerner ce qui est important. Nos églises sont bien divisées. Nous avons une mosaïque de courants d'églises. Eux appuient sur ceci, eux insistent sur cela, eux utilisent plutôt telle version de la Bible, eux font leur culte de telle manière. Et nous avons une telle diversité. Et il nous est tellement parfois difficile de nous rassembler tous. Si seulement nous étions capables, et je me place dedans aussi dans cette exhortation, de voir, d'élever Christ au milieu de nous et de le faire tellement briller que toutes ces nuances ou ces différences disparaissent à nos yeux. Et on le voit, Philippe l'a évoqué la semaine dernière, il y a des églises qui sont persécutées, qui souffrent pour le nom du Seigneur. Et c'est sûr que dans les pays où l'Église elle est persécutée, ce genre de nuances ne pèse rien. Et les chrétiens se rassemblent sous la bannière de la croix bien plus facilement et bien plus simplement et bien plus farouchement que nous qui vivons dans des pays tranquilles où nous avons le luxe de faire la nuance entre telle doctrine et telle doctrine. Jésus-Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce que je serai capable un jour de prononcer ces paroles avec conviction, au point d'affronter une souffrance qui me fait face en me disant, quoi qu'il arrive, je terminerai avec lui. Que je vive ou que je meure, le Christ se glorifiera par moi. Étonnamment, lorsque on parvient, comme l'apôtre Paul, à vivre pour le Seigneur Jésus totalement, nous sommes totalement libres aussi. Qui peut nous mettre le grappin dessus? Qui peut nous contraindre à? Qui peut nous manipuler? Qui peut nous tordre le bras? Qui peut nous faire plier si toute ma vie est centrée sur Jésus? Et si vivre ou mourir ne m'importe plus parce que dans tous les cas, il se glorifiera par moi et moi je serai avec lui. Peut-être Paul était une des personnes les plus libres qui soient parce qu'il appartenait pleinement au Seigneur Jésus. Peut-être était-il libéré aussi de ses conflits parce qu'il appartenait au Seigneur Jésus. Et cette liberté peut-être nous fait peur. Est-ce que pour la vivre, cette liberté, il faut tout abandonner pour le Christ? Tout lui consacrer, tout lui remettre. Et le chemin me paraît immense. Frères et sœurs, je conclus donc. Cette église de Vauvert ne nous appartient pas. Elle n'appartient pas à l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques. Elle appartient au Seigneur Jésus. Et elle nous a été confiée. Nous régnions dessus, en son nom. Vous, moi, nous régnions sur cette Église. Nous en avons la charge, nous avons la responsabilité, nous en avons l'intendance. Et cette Église est un petit bout de royaume placé ici à Vauvert qui veut briller sur les alentours pour que toutes celles et ceux qui sont attirés par le Seigneur viennent ici et entendre une parole vraie de libération. Le Seigneur est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Il nous appartient que cette parole soit proclamée fidèlement, que ces personnes soient accueillies avec bienveillance. Et soyons fidèles en peu de choses, comme ça nous serons établis sur beaucoup de choses. Que le Christ règne dans vos cœurs et que le Christ règne dans cette Église. Que cette année soit illuminée par la Seigneurie de Jésus au milieu de nos vies. Amen.